Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne, vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 FM et vous retrouvez comme chaque mercredi entre 16h et 16h30 le magazine Campus Lille Info, un magazine dédié à l'Université de Lille et à la présentation de ce qu'il s'y passe, et parfois et souvent même d'événements. Et ce sera le cas notamment ce samedi 15 octobre puisque sera ouvert au public, on va dire de 10h à 17h, hein, un lieu qu'on a déjà présenté mais qui était situé ailleurs et qui est un lieu dédié à la recherche et à l'innovation, Xperium. Pour nous parler donc de cette structure et qui est basée maintenant à l'Iliade, l'Iliade étant le nouveau projet autour de l'ancienne bibliothèque en plein centre de l'Université Lille, j'ai invité Madame Sophie Picard qui est maître de conférence. Bonjour Madame Picard.
Bonjour.
Et Monsieur Jacques Sautron qui est chef du département médiation communication justement de l'Iliade Learning Center Innovation. Bonjour Monsieur.
Bonjour.
Voilà. Donc, on va entrer dans la semaine de la science, de la recherche, etc. On est dans un moment d'ouverture au grand public, peut-être de certains laboratoires, de certains chantiers de recherche. Et là, ce sera vraiment le cas, donc avec l'ouverture de cet espace Xperium, avec des expériences en vrai. J'en ai vu tout à l'heure.
Absolument, nous allons présenter donc la deuxième saison d'Xperium qui ouvre donc dans l'Iliade et nous en sommes ravis. Nous allons présenter 8 expériences sur la thématique de la troisième révolution industrielle.
Donc ces expériences, elles ont été l'objet d'un appel, on va dire, à projet ou à candidature, c'est bien cela ?
Absolument, nous avons lancé, pour lancer cette deuxième saison, un appel à candidature en direction des laboratoires avec Jean Cosléou, donc directeur scientifique d'Xperium, afin de recueillir des propositions suite à la première saison donc, qui existait dans l'ancienne salle des thèses autour de l'intelligence des données. Et nous avons eu beaucoup de réponses et des réponses de grande qualité, ce qui nous a permis ensuite de proposer ces 8 expériences sur la troisième révolution industrielle.
Sophie Picard, ces expérimentations, ces expériences, je sais que vous êtes un peu spécialisée dans la chimie, hein, c'est ça ?
Oui, mais là je suis à Xperium au titre de... Voilà, je suis une scientifique, voilà. Je dois couvrir tous les domaines scientifiques de l'Université de Lille, et c'est très intéressant.
Et là, j'ai vu quelque chose qui est en, j'allais dire, in vitro, si on peut dire, hein, c'est comment on recrée de la nourriture pour les poissons,
oui,
en élevage
les
industriel.
Copépodes, voilà.
Incroyable.
Donc là, c'est de la biologie animale, marine, plutôt. Oui, en fait, il y a un stand consacré à cela, donc issu d'un laboratoire de la station de Vimereux, qui nous expose leur recherche basée autour de ce plancton qui peut jouer deux rôles, soit d'une part un indicateur de pollution, puisqu'ils ont une vie sociale, ils ont qui peut être perturbée par la présence de contaminants, mais aussi qui peut servir, et c'est leur recherche, hein, de source d'alimentation pour les élevages de poissons. Vu que notre consommation de poissons va fortement augmenter d'ici 2050, il faut trouver donc des moyens sains d'alimenter donc les poissons, sachant que là, ces copépodes, c'est la source d'alimentation de tous les poissons.
Mmh. Alors c'est vrai qu'on a eu des reportages terrible, hein, par exemple sur l'élevage du saumon,
oui,
où vraiment on leur donnait vraiment n'importe quoi à manger.
Voilà, donc là c'est l'objectif, hein, de cette recherche-là, hein, enfin, de tous les stands qui sont proposés à Xperium, c'est dans cette exposition, on montre des exemples de ce qui est fait dans le cadre de la troisième révolution industrielle, mais sous 3 thématiques. Donc l'énergie. Donc pour essayer de se diriger plus vers des énergies renouvelables ou faire en sorte de l'économiser, cette énergie. Le climat, donc notamment concernant la pollution, les effets sur le changement climatique, mais également la préservation des ressources. Et donc le stand sur l'éco-pépode fait partie de cette thématique-là.
Alors c'est vrai qu'il y a de vrais enjeux économiques derrière. On parlait de troisième révolution industrielle lancée dans la région d'ailleurs, à l'initiative du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à l'époque par Jérémy Rafkin.
C'est ça. Et donc, maintenant repris par la région de France.
Voilà, comme non seulement un des symboles, mais un des moteurs, on va dire, du développement ou du redéveloppement, à la fois de l'économie, mais aussi de la recherche qui prépare à cette économie.
Voilà, tout à fait. Et notamment, donc Jérémy Rifkin est venu à plusieurs reprises dans la région. Et pour rencontrer les universités et les chercheurs, mais aussi les responsables de formation, qui cadre donc dans cette thématique. Et par exemple, à l'Université de Lille, il y a le pacte Lille qui a été créé, qui regroupe tous les chercheurs, tous les laboratoires de recherche et toutes les formations qui cadrent justement dans cette thématique. Et de manière à pouvoir développer donc les recherches dans ce sens, sachant que par exemple à Lille 1, on a la chance d'être une université d'une certaine taille, dans laquelle il y a des activités semblables à celles d'une ville. Donc c'est un excellent terrain de recherche. Il y a pas mal de projets de recherche qui sont réalisés sur le campus, dans les laboratoires de recherche, en utilisant justement Lille 1 comme lieu d'étude, pour pouvoir ensuite le transposer à l'échelle de la ville.
Voilà, modélisation.
Voilà, puisque ici, il y a des gens qui dorment, qui mangent. On est très nombreux.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a, comme je disais, des enjeux de territoire, des enjeux de développement à l'international aussi.
Oui, c'est vrai que la recherche ici à Lille 1 est très internationalisée. D'ailleurs, à Experium, chaque stand représente donc une manip de recherche donc innovante, issue des différents labos, couvrant un maximum de disciplines, et sont présentées par des doctorants issus des laboratoires de recherche et qui travaillent donc dans les thématiques là. Mais il y a souvent, donc tous les ans, on a un certain nombre d'animateurs qui sont étrangers, parce que y a beaucoup d'activités, des projets en relation avec les laboratoires internationaux, des entreprises aussi, et on accueille beaucoup de chercheurs et d'étudiants ou de doctorants d'origine
étrangère. C'est vrai que certains pays ont peut-être plus que d'autres des intérêts particuliers à développer leurs recherches sur l'environnement ou d'autres. Peut-être qu'il y a dans nos laboratoires, des solutions qui vont émerger par la suite, autant mettre tout cela en phase.
Il y a beaucoup, oui, tout à fait. Il faut collaborer. Il y a pas mal de projets qui permettent de se faire collaborer donc différents laboratoires, mais aussi des entreprises, les collectivités territoriales. Et il y a beaucoup d'incitations. Au niveau de la recherche, c'est vrai qu'il faut, chaque laboratoire doit trouver des financements. Et tout ce qui est thématique qui concerne l'environnement, y a pas mal de financements dedans.
On peut dire que l'environnement, c'est le charbon de demain pour notre région.
Voilà, donc tout à fait. Donc on va plus vers une économie durable
et un peu
et responsable, verte. Ouais. Voilà, donc ça c'est des...
Bon, c'est quand même un point très positif.
Oui.
Je veux dire, nous, on a beaucoup... Enfin, ma jeunesse, ma génération, j'allais dire sacrifiée, a beaucoup souffert de la pollution dans la région.
Oui.
Peut-être que ce problème-là a aussi été l'objet d'études qui permettront de dépasser et de trouver des solutions plus adaptées que ça n'a été le cas à l'époque.
Oui, tout à fait. Il y a des prises de conscience qui ont démarré dans les années 80 avec la notion de développement durable, par exemple, et qui a évolué dans différentes disciplines, dont par exemple la chimie, avec la chimie verte qui est apparue. Donc, essayer de faire en sorte, prendre conscience que l'activité humaine a des effets néfastes sur l'homme et l'environnement, et essayer de tout faire maintenant pour ne plus pas se priver de notre confort, puisqu'on ne peut pas forcément faire marche arrière et revenir comme au Moyen-Âge. On a besoin des technologies, des diverses technologies, notamment la communication, mais aussi au niveau de notre mode de vie pour se déplacer, s'habiller, etc. On peut pas revenir à aller au Moyen-Âge, mais donc il faut pouvoir préserver notre confort, mais en le faisant intelligemment, sans faire de bêtises au niveau de la planète. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'il y a quand on regarde par exemple ce qui est montré à Experium, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et qui donnent un peu d'espoir dans différents domaines, quoi. Alors, même si c'est pas pour l'instant, enfin, il y a pas de solution miraculeuse pour tout. On peut pas passer subitement à du génial, du développement durable à 100%, mais bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés.
Alors, on n'aura pas le temps d'aborder largement la question que je vais évoquer maintenant, mais comment on passe de la recherche fondamentale à la recherche-développement ? Est-ce que vos laboratoires, notamment les doctorants, sont impliqués dans ces process ?
Ah bah, il y a obligatoirement les deux types de recherche, hein, fondamentale et appliquée. La recherche fondamentale, elle n'intéresse pas malheureusement les financeurs, parce que bon, bah, ça n'aboutit pas sur quelque chose qui peut devenir rentable, mais on en a vraiment extrêmement besoin pour comprendre le monde qui nous entoure, pour pouvoir découvrir des principes. Donc, mais c'est à partir de ce qu'on découvre, on peut se dire, eh tiens, si on l'appliquait pour faire ça, et c'est justement ces idées qui peuvent être appliquées, qui peuvent mener à des idées géniales, innovantes, qui peuvent intéresser cette fois les entreprises. Mais bon, c'est vrai que sans la recherche fondamentale, on ne peut pas aboutir à la recherche appliquée. Voilà. Et bon, malheureusement, pour faire de la recherche fondamentale, on manque de plus en plus de financement.
L'intérêt d'Experium, justement, c'est d'être un showroom, un démonstrateur en fait, de la recherche scientifique sur le campus, hein, dans les laboratoires, qui est faite dans les laboratoires de l'Université de Lille. Et c'est de mettre en contact aussi, justement, les doctorants avec les lycéens, d'une part dans le cadre de la transition lycée-université, mais également les chefs d'équipe, les directeurs de laboratoire, avec les entreprises. Et donc sur cette deuxième saison, on est bien accompagné aussi par la CCI, qui nous a, la Chambre de commerce et d'industrie régionale, qui nous a d'ailleurs autorisé à utiliser le logo REV3, qui est très intéressé par la thématique. Et nous souhaitons évidemment faire venir des chefs d'entreprise, des directeurs de PME sur Experium, pour justement organiser des rencontres, favoriser la rencontre, les synergies entre les laboratoires et les entreprises du territoire, et que puissent émerger justement des applications ensuite industrielles qui puissent venir alimenter ensuite notre société.
Voilà, donc on va dire qu'il y a des partenaires peut-être habituels, et puis charge à eux aussi de relayer ce que vous faites et les partenaires qui sont déjà établi pour en développer d'autres avec d'autres structures, d'autres entreprises.
Alors absolument, nous sommes conventionnés avec les pôles de compétitivité, les 7 pôles de compétitivité qui existent au niveau régional, en appui avec le Conseil régional Hauts-de-France. Et donc nous appuyons évidemment sur les pôles de compétitivité pour créer d'une part une programmation scientifique événementielle qui aura lieu dans le complexe événementiel dont on pourra parler plus tard, mais en regard aussi et en lien avec Experium. Et effectivement, l'idée, c'est aussi que ces pôles de compétitivité soient le relais de ce qui se passe dans l'IAD de manière globale et bien évidemment dans Experium, et qu'ils incitent bien sûr des chefs d'entreprise à prendre contact avec nous et à venir visiter l'IAD dans sa globalité, Experium en particulier sur les aspects scientifiques et de recherche.
Voilà, donc on va revenir, si vous voulez bien, à cette journée du 15 octobre, puisque ce sera une journée un peu particulière avec une ouverture au grand public, entrée libre. Il va peut-être y avoir beaucoup de monde, donc des queues d'attente, une organisation particulière.
Oui. On a prévu effectivement, alors on s'attend effectivement à avoir un petit peu de monde, on espère, on le souhaite. Nous avons déjà ouvert Experium dans le cadre d'événements grand public, fête de la science, journée portes ouvertes. Nous avions eu un petit peu de public, nous avions réussi à réguler les flots, même si je crois qu'aux dernières journées portes ouvertes, nous avions eu 100 personnes, à peu près une centaine de personnes.
150.
Oui, c'est ça. 150.
C'était la fête de la science l'année dernière, en fait, 150 personnes. Mais c'était dans un lieu qui n'était pas forcément facile à trouver au niveau du campus.
La salle des thèses, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que cette année, on change de thématique. On change de lieu et on arrive dans un lieu prestigieux qui attire Voilà.
Bon, donc ce lieu, effectivement, on va le rappeler, hein, c'est donc l'ILIAD, le Learning Center Innovation, qui est en plein cœur du campus, c'est exactement la station Cité Scientifique, on ne peut pas y échapper, hein, ça se voit de loin.
Absolument, il est sur le passage des étudiants.
C'est-à-dire que tous les chemins mènent à l'ILIAD.
Absolument, l'entrée a été effectivement faite pour être sur le chemin des personnes qui traversent le campus, que ce soit des étudiants, des enseignants, personnels biétos, ou que ce soit effectivement des gens qui travaillent à la haute borne ou du grand public.
Et les étudiants se sont largement appropriés. C'est vrai que moi je suis enseignante et je sais que mes étudiants m'ont avoué qu'une fois ils n'avaient pas cours, ils avaient découvert qu'ils n'avaient pas cours. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Venir à l'ILIAD pour réserver une salle, pour travailler entre eux leur compte rendu de travaux pratiques.
Je confirme, je viens d'y passer. C'est énorme le nombre de personnes qui s'y retrouvent.
C'est un lieu que les gens adorent.
Avec des petits box pour travailler ensemble.
Nous dépassons les 2000 entrées jour à l'heure actuelle. Donc nous dépassons effectivement largement ce qui était attendu, pressenti. Effectivement, nous avons beaucoup de salles de travail en groupe, 50 salles de travail en groupe.
Qu'il faut réserver, je
crois. Qu'on peut réserver via le site web de l'ILIAD ou via une application qui s'appelle Affluence. Donc, par contre, il faut être membre de la communauté universitaire Lilan pour pouvoir le faire.
Voilà. Il y a du monde dans tous les escaliers, là.
Absolument. Donc, nous étions inspirés d'exemples européens, de grands exemples internationaux, pour créer des gradins, des espaces gradinés, donc le long des escaliers, et pour en faire des places de travail qui sont investies et qui servent effectivement de places assises complémentaires.
Et ces petites salles sont géniales parce qu'elles sont équipées de manière à permettre aux étudiants, en utilisant leur appareil connecté, à projeter sur chacun leur tour comme ils le souhaitent par la Wi-Fi. Donc,
on peut rappeler que les étudiants inscrits à l'Université Lille Sciences et Technologies ont un code Wi-Fi spécifique.
Oui, ils ont chacun, en fait, quand ils s'inscrivent, ils reçoivent effectivement une invitation à se rendre sur le site pour valider leur compte et pour, avec un login mot de passe provisoire, donc ils doivent activer leur compte, valider la charte informatique, et à partir de là, leur Wi-Fi est actif. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'ils peuvent utiliser les services Wi-Fi et donc avoir accès également à la réservation des salles et aux services qui sont proposés dans l'IAD de ce moment.
Bon, c'est bien organisé.
On essaye.
Alors, on va revenir sur ces présentations qui seront faites. Donc, on va dire 8 grands thèmes, 8 grandes expériences qui seront montrées et démontrées samedi et
samedi
d'autres jours.
Samedi, entre 10h et 17h.
Donc ça, on a dit que c'est la journée d'ouverture, sachant que ça va durer combien ? Un an et demi ? 2 ans ?
Alors, chaque saison est censée durer 2 ans. Okay. Et c'est 1 an et demi de préparation.
Voilà. Donc, là, ça fait 1 an et demi que vous prépariez.
Ça fait 1 an et demi qu'on est sur la saison 2.
Expérience.
Oui. Parce qu'il faut d'abord déjà trouver la thématique, lancer l'appel par différents moyens aux différents laboratoires de recherche, recevoir, alors c'est laisser le temps de se décider, de faire des propositions, d'aller les rencontrer, de présenter devant notre comité organisationnel scientifique, donc qui comporte bien sûr l'équipe restreinte, hein, donc l'équipe scientifique et l'équipe de l'ILIAD, mais aussi tous nos partenaires comme la région, les pôles de compétitivité, donc le rectorat, la commune,
l'AMEL.
Donc voilà, tous eux, ils ont leur mot à dire, et on définit donc quel stand leur paraissent intéressants. Et après, ben là, il faut imaginer chaque stand, le mettre au point, rencontrer les différents labos pour voir quelle est la manip pédagogique qui permet d'amener le public à la recherche en vulgarisant tout ça, pour que n'importe qui puisse comprendre donc le principe de la recherche, hein, sur le stand. Et c'est vrai que la mise en place, tout ce qui est signalétique, comme la partie communication, les posters, tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, 1 heure et demie. Donc 1 an et demi de préparation. Et c'est vrai que déjà dès décembre, on va réfléchir à la saison 3 qui démarrera dans 2 ans.
Très bien. Donc on a parlé tout à l'heure de quelques expériences, mais il y en a 8. Hein. Donc
8.
On va peut-être compléter ce qu'on a dit.
Oui. Donc en fait, parmi les 8, on essaie aussi, notre souci pour bâtir cette expo, c'est de couvrir un maximum de domaines différents. Même si ce n'est pas toujours possible. Donc là, on a de la biologie, de la chimie, de la physique, de l'électronique, mais aussi de l'aménagement urbanisme. Hein. On essaie aussi de représenter ces sciences-là, sciences humaines sociales, sciences économiques et sociales. Et donc, à travers cet itinéraire, on aborde donc la ville connectée, c'est-à-dire une sorte de domotique, mais bien plus complexe, non pas à l'échelle d'une maison, mais à l'échelle d'une ville, pour pouvoir gérer tous les flux, électricité, gaz, etc., et puis faire en sorte de limiter les gaspillages. Il y a aussi un stand sur les véhicules électriques multisources, pour pouvoir... qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle par le laboratoire représenté pour pouvoir travailler sur la longévité de la performance des batteries, la bioraffinerie pour pouvoir faire face à la raréfaction du pétrole, le pétrole qui n'est pas que une source de carburant mais qui permet aussi de faire toute la chimie qui nous entoure, donc les peintures, les cosmétiques, le high-tech, les plastiques, etc. On a aussi donc l'urbanisme, donc le avec l'aménagement des corridors biologiques, donc tout ce qui est grandes lignes, réseaux ferroviaires, réseaux haute tension qui traversent des milieux naturels, qui peuvent perturber les flux d'animaux, mais aussi la flore et les plantes. Donc c'est une étude qui est présentée là-dessus. L'analyse de la qualité de l'air ambiant, donc l'analyse de la pollution des polluants intérieurs. Donc leur connaissance grâce à des capteurs permet de pouvoir concevoir des bâtiments plus sains plus tard, limiter la pollution. Donc le monde des copépodes, ça on en a discuté. Il y a aussi la détection laser de particules dans l'atmosphère. Donc ça c'est pour pouvoir connaître les particules présentes dans l'atmosphère et qui peuvent être soit naturelles mais soit aussi des polluants. Donc ça peut se réaliser par une analyse passive, par un laser qui est envoyé vers le ciel et qui peut se refléter sur les particules, et l'analyse du signal qui est en retour permet de connaître un peu plus précisément la composition de l'atmosphère. Et puis enfin, donc un dernier stand sur les cellules solaires, ce qui peut être fait pour rendre les panneaux solaires plus performants et quelles sont les différentes il y a aussi une nouvelle technique qui est proposée sur ce stand.
Alors je sais qu'il va y avoir sur l'université ici une consultation du public pour comment vivre mieux le campus. Mmh. J'avais proposé à Sandrine Rousseau dans cette émission il y a peu de temps qu'il y ait à l'extérieur des bâtiments quelque part un point où on présente les résultats de la qualité de l'air in situ. Peut-être un jour ce sera...
C'est tout à fait possible, c'est justement l'objet du stand sur la qualité de l'air ambiant, puisque eux ils ont des petits capteurs, puisque maintenant ça c'est des choses qui ont évolué. Avant c'était des grosses colonnes qu'il était difficile de déplacer, maintenant les capteurs sont tout petits, ils peuvent être placés partout et l'analyse se fait en temps réel et on peut récupérer par réseau clé 3G, donc sur n'importe quel ordinateur on peut récupérer toutes ces données là pour savoir en temps réel quel est le taux de CO2, les composés organiques volatiles, le taux de particules, les différentes particules, etc.
Bon, ben voilà.
Et donc ça c'est possible, et ça justement c'est quelque chose qui est en cours.
Très bien, donc pour conclure on va rappeler que l'ouverture au grand public de Xperium saison 2, on va dire, c'est ce samedi entre 10h et 17h qu'il y aura bien sûr des scolaires avant, je pense,
et puis aussi après, voilà. On accueille des scolaires.
Et donc, que tout ça fonctionne au niveau des scolaires en relation, peut-être en liaison donc avec le rectorat.
Absolument, nous avons un lien assez fort avec le rectorat, avec un CAST, donc c'est un IAIPR qui fait partie aussi du comité opérationnel scientifique qui nous accompagne et qui relaie l'information en direction de l'ensemble des IAIPR au niveau de l'académie, et ensuite donc qui fait redescendre l'information auprès des proviseurs qui eux-mêmes font circuler l'information dans leurs établissements.
Voilà. Peut-être que d'ailleurs des parents d'élèves de ces élèves viendront avec les parents samedi.
Ou les enseignants aussi. C'est vrai qu'on a aussi la chance par le rectorat d'avoir des enseignants missionnés qui viennent nous aider pour établir des fiches pédagogiques comme outil pour les enseignants, qui viennent aussi écouter les animateurs pour vérifier que leur discours peut être compris par les lycéens, et aussi faire un lien avec les différents programmes niveau par niveau pour que les enseignants puissent s'approprier ce qui a été montré et le réutiliser pour leurs cours.
Voilà, bien, très, on va dire, rendez-vous au public à partir de 10h jusqu'à 17h. Vous avez dit, hein, une organisation pour que chacun puisse y entrer à un moment donné.
Absolument, quand des visites seront en cours, on fera patienter dans le hall de l'Iliade, peut-être en invitant d'ailleurs certainement le public à aller visiter les autres espaces, et notamment le pôle bibliothèque. Et puis ensuite, nous leur proposerons un autre créneau horaire pour démarrer une seconde visite et pour que les visites puissent s'organiser de manière fluide, avec des groupes qui restent tenables en termes de capacité. Pour l'espace.
Bien, merci Jacques Sautron, merci Sophie Picard, merci. Et à samedi alors.
À samedi.
À samedi.